Donc bonjour, bonjour Anne, bonjour Anne Stégel, Laure Thibault, Olivier Serre et Léa Castor ou Léa Lenou. Donc nous allons bien sûr parler de cette bande dessinée, mais d'abord je vais vous présenter. Donc vous êtes membre de la cellule parité de l'Institut des sciences de l'information et de leur interaction, qui est l'un des instituts du CNRS. Donc, le Centre national de la recherche scientifique. Donc, Léa Alianou ou Léa Castor, vous êtes illustratrice de cette BD intitulée Les décodeuses du numérique. Et peut-être pour commencer, vous voulez peut-être vous présenter justement?
Oui, alors du coup, je m'appelle Léa Castor, comme nom d'artiste en tout cas, et je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Donc en fait, la cellule parité du CNRS m'a contactée en me proposant de participer à un appel à projet pour donc le projet des décodeuses du numérique qui ne s'appelait pas encore comme ça à ce moment-là, mais qui était l'idée de faire 12 portraits, des portraits de femmes scientifiques qui sont toujours vivantes, hein, donc de dire actuellement des femmes sont dans la recherche numérique. Et on aimerait en faire des BD qui parlent non seulement de leur parcours, de leur thématique, parce qu'au final, dans les sciences numériques, il y a plein de choses, et également aussi des complications dans leur parcours et dans leur travail par rapport au sexisme, en fait, au sexisme ordinaire. Et si j'ai été contactée, c'est parce que je m'intéresse beaucoup aux thématiques féministes, à la représentation féminine, et souvent dans la BD, des femmes, des sujets et non des objets. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas mal concordé là-dessus, mais je n'y connais rien en science, mais vraiment rien. Et je pense que le fait que je n'y connaisse rien était un atout quelque part parce qu'on devait m'expliquer les choses, on va dire, du début. Et du coup, pour faire de la vulgarisation, donc expliquer à des publics plus jeunes qu'est-ce que c'est, alors qu'on parle de choses ultra pointues, bah, finalement, c'était pas mal parce que du coup, avec moi, on recommençait aussi du début. Où j'étais. Alors, des algorithmes, qu'est-ce que c'est? Bon, ça va pas être facile.
Et donc, on va peut-être parler justement comment l'idée est venue de cette bande dessinée. Peut-être, Laure, vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé, cette idée.
Tout à fait. Donc, en fait, la cellule parité égalité a été créée en 2019 et en 2020, après qu'on se soit constitué. Il y avait vraiment la volonté de faire un projet d'envergure, donc au niveau de la communication. Et on avait envisagé différentes choses, des expos, voilà. Et en fait, l'idée a émergé d'une bande dessinée où on s'est dit qu'effectivement, c'était un format original, ça touchait bien la cible des jeunes que l'on voulait. Ce serait, il y avait un côté attractif, ludique, et donc on s'est vite orienté là-dessus. Et après, on a mis en place tout un process pour sélectionner les différentes personnes qu'on voulait représenter, pour croiser les âges, les thématiques, les lieux, et commencer les interviews qu'on transmettait après au fur et à mesure à Léa pour les mettre en image.
Et donc, par ces 12 portraits, vous avez voulu mettre en avant la diversité justement des recherches en sciences du numérique. Donc, c'est un secteur varié, n'est-ce pas, et accessible aux filles et aux femmes. Donc, vous pouvez nous dire quels sont justement ces différents secteurs? Peut-être Anne ou Olivier?
C'est Olivier.
Oui, c'est vraiment le numérique au sens large, en fait, au sens où on l'entend à INS2I au CNRS. Donc, il y a des côtés, on va dire, plus informatiques. Donc, on va avoir des gens qui font de l'algorithmique, de la bioinformatique. Donc, on est aussi en interaction avec d'autres disciplines. On va aussi aller sur des aspects un peu plus appliqués avec de la robotique. On va avoir du traitement du signal. On a de la science du logiciel. Donc, on a essayé vraiment de varier effectivement les thématiques du numérique au sens large. Puis aussi les métiers, en fait, hein, parce que dans les portraités, il y a par exemple une ingénieure, donc il n'y a pas que des chercheuses ou des enseignantes chercheuses.
Et donc, comment développe-t-on justement une bande dessinée au sein d'un institut, en fin de compte? Comment donc avez-vous été impliquée dans sa création? Donc, Anne, peut-être.
Oui, ben en fait, c'est un vrai travail collaboratif, puisque dans le cadre de la cellule parité, donc on s'est demandé quelles pouvaient être les actions importantes. Et comme Laure l'a dit, on a voulu travailler sur la notion de visibilité de la recherche faite par nos scientifiques. Donc, effectivement, Estelle Hutchka, qui est co-autrice de la BD, a proposé cette idée de bande dessinée. Et ensuite, quand on a contacté Léa, qui a répondu à l'appel, on s'est demandé quel domaine on voulait mettre en avant et quelle chercheuse mettre en avant. Et donc, on a développé en fait tout un algorithme pour identifier un ensemble de chercheuses et d'enseignantes-chercheuses d'âges différents, donc de seniorités différentes, des plus jeunes aux plus seniors, qui habitaient dans et qui travaillaient dans des laboratoires différents, puisque l'INS2I pilote les recherches dans 40 laboratoires à peu près, donc il fallait être assez dans toute la France, et puis de thématiques différentes. Donc on a pris finalement un sous-ensemble représentatif de scientifiques et de leurs recherches en fonction de ces différents critères. Il en restait plein d'autres, hein. Donc je pense qu'on a de quoi faire un tome 2, un tome 3, il n'y a aucun souci, mais déjà on s'est attaché sur ces scientifiques-là. Et ensuite, on les a contactés pour leur demander leur accord. Elles ont été plus ou moins volontaires au démarrage, donc plutôt timides en fait, elles n'avaient pas trop envie de venir et d'être mises en avant, mais Laure les a convaincues. Je pense que le travail de Léa, qu'on connaissait, les a aussi convaincues, et ensuite c'est parti sur un mode d'interview, d'abord par Laure et Estelle, et puis ensuite Léa a pris le relais pour transcrire le contenu des interviews, et ensuite des itérations avec Olivier, moi et d'autres membres de la cellule parité, Pierre Chénet en particulier, pour arriver à décortiquer le contenu des BD et à le rendre à la fois pédagogique et juste scientifiquement. C'était quand même l'objectif aussi.
Vous montrez justement par cette bande dessinée que les femmes sont dans ce secteur et que c'est un secteur passionnant, mais en même temps, les femmes rencontrent beaucoup de problèmes ou de situations qui sont difficiles. Donc, justement, quels sont les obstacles qu'il y a encore, justement, que les femmes ne veulent pas venir dans ce secteur ou ont des difficultés dans ce secteur?
Je dirais qu'il y a plusieurs enjeux, hein, qu'on a découverts aussi en discutant avec les décodeuses. Alors, on a volontairement souhaité aborder la question du sexisme ordinaire. C'était une demande qu'on leur a faite. Donc, on leur a demandé d'essayer de réfléchir à un événement de sexisme ordinaire qu'elles avaient pu vivre dans leur carrière. Donc, certaines nous ont dit que la question n'était pas adéquate. D'autres ont vraiment exprimé des ressentis parfois assez chargés d'émotions. Donc, en termes de biais d'impact, je pense qu'il y a des biais sociétaux qui ont numérique et de l'informatique dès la plus jeune enfance, qui correspond à une vision de l'informatique, c'est le geek à boutons, on va dire. Donc, l'informaticien type est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très attrayant pour des jeunes filles. Donc, ça, c'est un des soucis qu'on essaie justement de déconstruire avec la BD. Ensuite, il y a éventuellement cette vision de l'informaticien peut aussi impacter sur les familles et la vision de l'orientation qu'on peut avoir au sein des familles. Ça va aussi rebondir sur les enseignants qui vont avoir tout au long des étapes de l'orientation et qui vont quelque part dissuader les filles d'aller dans ces carrières. Puis au fur et à mesure des carrières professionnelles dans l'informatique, on retrouve différents impacts des métiers sous-féminisés, hein, c'est-à-dire des phénomènes de sexisme, des questions liées à la prise en compte de la maternité, de la parentalité, du sexisme ordinaire avec des petites remarques, et puis des problèmes de progression de carrière. Alors je pense que ça s'améliore quand même, on arrive à le dénoncer, on arrive à faire des choses pour arriver à rendre les choses beaucoup plus justes, et maintenant on a des carrières de femmes qui sont exceptionnelles et qui se passent très très bien, mais ça demande une vigilance de tous les instants et on est loin d'être arrivé encore au bout de tous les enjeux.
Et justement, à l'Institut des sciences de la formation de l'interaction, combien de femmes font partie de cet institut?
Vas-y, Laure, je t'en prie.
Dans nos laboratoires, on est à un peu moins de 20% de femmes, etc., comme on le disait, par rapport à des questions d'orientation. Après, effectivement, par rapport à la BD, l'idée, c'était vraiment de pouvoir incarner des femmes dans ces métiers, etc. Et c'est vrai que quand on faisait des entretiens avec les chercheuses et ingénieurs, ça arrivait plusieurs fois qu'en fait, elles réalisent, parce qu'on en discutait, qu'elles avaient été souvent orientées par d'autres femmes et que c'est parce que justement, sans forcément le percevoir, il y avait déjà quelqu'un, une femme qui était dans leur domaine, qu'elles se sont senties capables. Et donc, du coup, elles étaient pour la plupart très fières de pouvoir, elles aussi, être un peu un exemple pour d'autres personnes.
Et donc, le but de cette bande dessinée, justement, a un caractère vraiment éducatif puisqu'elle elle peut être utilisée dans les milieux scolaires. Donc, comment faites-vous la promotion, justement? Vous l'avez déjà emmenée dans des écoles? Comment ça se passe exactement?
Olivier, peut-être?
Effectivement, la BD... assez rapidement, on a eu le désir de la diffuser dans les lycées de France. Donc, en fait, là, depuis, ça fait quoi? Depuis 2-3 ans, il y a un enseignement obligatoire en numérique, en fait, en classe de seconde générale et technologique. Donc, ça fait énormément en fait, d'élèves en fait, qui sont au contact de cette discipline qui est nouvelle. Et donc, on s'est dit voilà, que c'était un bon moyen d'utiliser ce vecteur pour sensibiliser les classes à un moment où, justement, il y a quand même des enjeux d'orientation en fait, assez forts. Donc, on avait le budget pour imprimer toutes ces BD et les envoyer. Donc, ça a été un peu un petit combat pour arriver derrière à les diffuser parce que... on n'envoie pas juste par la poste comme ça 2 ou 3 000 BD dans tous les lycées de France et de Navarre parce qu'il faut quand même avoir l'aval du ministère. Donc, il y a en fait eu une lettre co-signée par un représentant haut placé au ministère et par le PDG du CNRS qui accompagne en fait l'envoi de cette BD dans tous les établissements de France. Donc, ça a été fait dans tous les lycées début janvier. Aujourd'hui, les collèges, parce qu'en fait, on n'a pas pu envoyer à tous les collèges, donc eux peuvent nous faire des demandes. Donc, Laure est submergée de demandes des collèges de France.
Excuse-moi, on a un formulaire et un collège sur cinq en France a fait une demande pour obtenir un exemplaire.
Donc, en fait, l'autre chose, c'est pour que ça soit utilisé dans les établissements. Nous, naïvement, on pensait qu'il suffirait juste d'envoyer la BD et que les profs allaient s'en saisir. Et il y a plusieurs acteurs du monde de l'éducation du secondaire qui nous ont interpellés sur le fait que ce qui serait bien, ce serait justement de faire des fiches d'accompagnement pédagogique pour que les enseignants puissent articuler la BD avec des points du programme. Donc voilà, donc ça a été une autre partie du travail qu'on n'avait pas forcément prévu et sur laquelle on s'est aussi appuyé avec des partenaires, dont la Société informatique de France, Femmes et Sciences et Femmes et Maths. Et il y a aussi l'UNICEF qui par ailleurs a aussi fait des fiches par rapport à ça. L'UNICEF, ils sont plutôt chargés d'orientation.
Donc si je peux rebondir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à la fois cette démarche, on va dire top-down, quoi, c'est-à-dire écrire à tous les établissements et soit leur envoyer directement un exemplaire, soit leur proposer d'en recevoir un, et puis une démarche de diffusion par tous les réseaux impliqués dans la médiation scientifique autour de l'informatique, donc les réseaux universitaires impliqués dans cette médiation scientifique, et on a été surpris des excellents relais qu'on a pu avoir et des excellents retours, quoi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant de voir qu'on a eu l'impression de répondre à un besoin, et effectivement, comme le disait Laure, le fait de montrer des informaticiennes vivantes, normales aussi, avec des enfants, avec une vie, avec des passions et des échecs aussi, enfin, qui ont rebondi sur leurs échecs, plus qu'ils parlent de sexisme ordinaire, on a l'impression que ça a incarné effectivement l'informaticienne d'aujourd'hui, alors que les modèles souvent présentés, quand il y en a quelques-uns dans les livres, c'est souvent Ada Lovelace qui date de 1870, donc c'est pas super moderne et on a plus de mal à se retrouver là-dessus. Donc voilà, donc il y a eu ce côté top-down et puis l'effet relais par tous les réseaux qui ont bien voulu participer à cette dynamique.
Pour vous, Léa, d'avoir participé justement à ce projet, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Plein de choses, je pense. Donc, comme je disais, j'ai arrêté plus ou moins les sciences au lycée, après la seconde, vu que j'ai choisi littéraire à l'époque. C'était quand même un beau challenge pour moi de me dire, est-ce que je vais pouvoir parler de sciences alors que je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, il y a eu plein de fois où, effectivement, je passais à côté parce que je ne comprenais pas le sujet. Donc, forcément, c'était déjà arrivé à faire de la vulgarisation, ce qui n'était pas forcément une de mes spécialités avant. C'était être au contact, en fait, aussi de scientifiques. C'était, pour moi, très intéressant de me rendre compte que les problématiques de sexisme, en fait, sont les mêmes, peu importe les secteurs. Et ça, c'est quand même assez... Enfin, c'est très naïf de ma part, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, la cellule parité, j'aurais tendance à penser que les gens... Dans notre société, les scientifiques sont quand même vus comme l'élite. Donc, pour moi, ce sont des personnes intelligentes. Donc, se dire qu'on peut se manger des réflexions sexistes aussi basses, c'était assez... Je pense éprouvant pour moi, mais de me dire en fait, oui, c'est pas parce qu'on a tant de diplômes qu'on va être plus intelligent sur ces choses-là, on va avoir cette culture-là. Donc c'est vrai que c'était chargé émotionnellement, je pense, de discuter aussi avec, parce que j'ai eu toutes les chercheuses, du coup, au téléphone, de discuter avec elles, de se rendre compte que c'était prendre une place qu'elles ne prennent jamais aussi. Le fait que ce soit des personnes très humbles, qui n'ont pas l'habitude, voire qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'être mises en avant, alors que faire une BD sur leur vie, c'était pas forcément évident, mais c'était super intéressant et super gratifiant, quoi. J'ai l'impression des deux côtés, donc c'était très riche. Et puis en fait, avec la cellule parité, ça s'est passé de manière très fluide, donc c'était un travail très agréable dans les échanges, parce qu'en fait, arrivé le moment où je disais en fait là je comprends plus, j'ai besoin qu'on m'explique, ça s'est fait assez naturellement, et c'est pas le cas du tout de tous les échanges professionnels en fait. Donc c'était un super projet pour moi.
Et pour vous, Olivier, en étant homme, d'avoir participé à ce projet, d'être en contact avec ces femmes et de voir justement les challenges, les défis qu'elles ont, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, justement ?
Déjà, on s'est moqué de moi après, mais j'étais en minorité. Non, mais en fait, c'était assez révélateur. En fait, quelque part, on a fait une journée de lancement de la BD où il y avait toutes les portraitées et quelques institutionnels et... Il y avait un renversement total parce que finalement, effectivement, pour une fois, il y avait 20% d'hommes en face de 80% de femmes, là où d'habitude, c'est le contraire. Donc ça, c'était une situation assez amusante. Mais de façon plus globale, en fait, le fait de s'intéresser depuis plusieurs années aux questions des rapports femmes-hommes dans mon milieu professionnel, et en particulier en lisant les témoignages dans la BD, qui avait aussi un amont en fait de la BD, parce qu'il y a quand même du filtrage entre l'interview brute de la chercheuse et puis ce qu'arrive à retranscrire Léa. C'est vrai que ça interpelle, parce que un peu comme disait Léa, bon voilà, on est un milieu de gens a priori intelligents, et donc on aurait tendance à dire ben non, ce genre de problème n'arrive jamais à côté de chez moi. Et en fait, ben, même en étant dans le milieu, ben, quelque part, il y a plein de choses dont j'avais pas conscience, et d'avoir vu ces témoignages ou de travailler voilà au quotidien sur ces questions-là avec Anne, avec Laure, avec les autres membres de la cellule, c'est vrai que moi-même en tant qu'homme, en fait, ça m'a interpellé en fait sur les pratiques de mon milieu et probablement aussi peut-être sur certains de mes comportements. Et donc, je pense que cet ouvrage, il a aussi un intérêt en fait pour les jeunes garçons, parce que d'une certaine façon, certes, le but, c'est de convaincre des jeunes femmes de venir dans les milieux numériques, mais ça sera aussi faisable en faisant en sorte qu'elles soient mieux traitées quand elles vont dans ce monde-là. Et ça, ça passe aussi par un travail d'éducation sur les jeunes garçons et sur les plus vieux, d'ailleurs.
Oui, c'est à tous les niveaux, n'est-ce pas?
Non, mais je pense qu'il y a des collègues hommes beaucoup plus seniors, hein, quand ils vont lire, quand ils ont lu ou quand ils lisent la BD, je pense que ça les interpelle beaucoup sur, hein, sur des témoignages de parcours de collègues qu'ils connaissent en plus. Ils se disent, non, mais elle, de toute façon, elle est super brillante, elle n'a jamais été embêtée, rien du tout. Et puis, en fait, ils disent ça et puis ils voient qu'elle a douté, ils se rendent compte qu'elle n'a pas eu un parcours si simple, en fait.
Et donc, le 11 février, nous célébrons la Journée internationale des filles de sciences. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? Et auriez-vous justement un message? Allez-y, oui, Laure.
Au niveau du CNRS, c'est forcément une journée très particulière où il y a un vrai focus, où il y a une coordination pour mettre en avant la diversité des profils, etc. Et c'est une action qui me permet de faire un focus, mais qui est après, de toute façon, étendue tout au long de l'année, où il ne faut pas oublier, évidemment, de continuer à mettre en avant les femmes.
Bah, de mon côté, je pense que le symbole est extrêmement important, c'est-à-dire que maintenant, on parle de femmes en sciences, on en fait une journée, on n'a pas que le 8 mars, journée des femmes, mais on a la journée de la femme en sciences, et ça, c'est extrêmement important parce que ça rebondit effectivement sur les enjeux qu'on a voulu développer avec la BD. L'enjeu, c'est pas la femme en sciences, ce sont les sciences faites par les femmes, qui des fois apportent un regard un peu différent, des modes de travail aussi un peu différents, pas tout le temps, mais un petit peu, et le fait de valoriser les résultats scientifiques des femmes, et quelque chose de fondamental aussi pour légitimer la place des futures scientifiques femmes dans la recherche. Donc, je pense que c'est vraiment important d'associer ces termes, femmes et sciences, et de montrer que la science faite par les femmes est vraiment révolutionnaire, autant que celle faite par les hommes, quoi. Donc, ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important.
Et pour vous, Olivier ?
Pour moi, c'est aussi important, effectivement. Je pense qu'il ne faut bien sûr pas que ça s'arrête à juste une journée et après on oublie. Hein. Non, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est que le fait qu'il y ait cette journée, le fait que le CNRS le relaye sur les réseaux sociaux, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Après, moi, de mon expérience personnelle, c'est vrai que quand je travaille en science avec une femme, ce n'est pas la même expérience que quand je travaille avec un homme. Et je pense que n'importe quel collègue, en fait, qui a l'occasion de travailler avec une femme, doit se rendre compte de ça assez naturellement. Mais effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait une communication institutionnelle là-dessus parce que c'est quand même un combat de tous les jours.
Et Léa, pour vous, que représente cette journée ?
Eh bien, je ne la connaissais pas avant de connaître le CNRS, je dois bien l'avouer. Et forcément, je me sens moins légitime à parler de cette journée parce que je ne me sens pas concernée par la partie scientifique. Mais je trouve ça super, en fait, que ça existe. Et je trouve ça super qu'en effet, ce soit quelque chose, quelque part, qui, au niveau symbolique, qui marque qu'il y a des problèmes et qu'on n'a pas envie de les laisser sous le tapis et qu'on a envie qu'il y ait des choses qui bougent. Et j'y connaissais tellement rien qu'en effet, de me dire, bon, bah, des chercheuses françaises, qu'est-ce qu'elles font? J'en ai aucune idée. Et c'était super intéressant. Et je pense que n'importe qui, en fait, en lisant cette BD, et on est comme ça, on dirait que je me vante, mais non, c'est parce que vraiment, en fait, elles ont des travaux qui sont super intéressants et qui, enfin, moi, j'avais l'impression de découvrir plein de choses et de me dire, genre, mais waouh, ça se passe en ce moment, c'est fou! Et de se dire, alors moi j'ai un petit biais justement qui fait que de se dire que c'est fait par des femmes, je suis encore plus admirative. Je suis là à me dire genre waouh, parce que je sais qu'en plus ben derrière ça il y a le fait que souvent on travaille deux fois plus pour arriver au même niveau, ce qui peut être très frustrant mais qui montre aussi que ben niveau ambition et travail, etc., on est souvent quand même bien balèze. Je trouve ça super de le célébrer et je suis très contente de le célébrer dans d'autres disciplines que la mienne.
Si je peux juste préciser, on travaille deux fois plus pour arriver au même niveau de visibilité, mais pas au même niveau d'excellence.
Et justement, Anne, vous êtes femme scientifique. Est-ce que vous avez eu des obstacles pour arriver où vous êtes ?
À chaque fois que je raconte ma carrière, j'ai du mal à trouver des endroits où j'ai eu des obstacles. Mais en fait, je vais rebondir sur ce que disait Laure, c'est que surtout qu'il y a eu plein de moments où j'aurais pu avoir des obstacles, typiquement quand j'ai eu des enfants ou quand j'ai voulu réorienter un peu mes recherches. Et j'ai toujours été accompagnée à ce moment-là par des personnes, hommes et femmes, qui m'ont tapé dans le dos en disant bah, « on est là, on soutient et on peut être présent ». Et je pense que l'enjeu, ce n'est pas nécessairement d'avoir des obstacles. Moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance à tous ces moments où j'aurais pu effectivement avoir des soucis, d'avoir les soutiens et les personnes qui naturellement sont venues derrière moi pour m'encourager. Donc, je ne peux pas me plaindre de ma carrière. Je pense que ce serait malhonnête, au contraire. Je considérais que ça n'est pas parce que je n'ai pas nécessairement eu d'obstacles que c'est ce qui est arrivé aux autres, parce que je pense que j'ai aussi bénéficié de beaucoup de soutien. Et c'est pour ça que j'ai envie de le rendre. En particulier, les périodes de maternité, qui sont des moments de fragilité, on va dire. Et on peut, à partir de sur ces moments-là, se retrouver isolé, avoir un petit peu de difficultés à réembrayer. Et ben, c'est là où l'environnement scientifique, l'environnement familial font la différence, quoi. Donc, j'ai eu de la chance à ces moments-là, j'estime.
Vous avez un dernier message ?
Faites des sciences féminines. Il faut faire des sciences et par les femmes. Voilà. Non, moi, je voudrais insister sur cette notion, effectivement, d'incarnation, du fait que toutes les femmes sont toutes légitimes pour faire de la science. Et comme Léa l'a dit, elles ne se rendent même pas compte de leur propre timidité. Et il faut y aller, quoi. Il faut oser, c'est tout.
Voilà. Laure, Léa, Anne, Olivier, merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.